Effectivement, c'est jour de budget. Le ministre des Finances, Éric Girard, va le déposer tout à l'heure. Budget de pandémie qui va nous permettre de mesurer vraiment là, le choc économique qu'aura causé cette pandémie de la dernière année. En attendant, ben, il y a beaucoup de projets là, qui font jaser en ce moment. Et c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de pollution. Puis vous avez vu, là, l'autre nouvelle de la journée, ben, c'est que la taxe carbone est là pour rester parce que, selon le juge en chef de la Cour suprême, c'est important pour lutter contre les changements climatiques. Là, c'est notamment un des outils pour faire avancer la cause environnementale. Et c'est vrai que je faisais un peu la nomenclature là, des 10 plus grandes industries pollueuses au Québec. Là-dedans, il y a 2 raffineries, 3 cimenteries, 2 alumineries et 3 usines métallurgiques. Et à ça, ben, il y a ce projet là, dont on parle depuis plusieurs années d'usine de gaz naturel liquéfié, le fameux projet de GNL Québec, qui a un peu de plomb dans l'aile, même si encore ce matin, les investisseurs de GNL disaient non, c'est pas la fin. On vient juste de se faire peut-être dire, bon, d'accord, on va retourner faire nos devoirs, mais malgré les critiques, ils continuent de dire que le projet est pas mort. C'est vrai que c'est un gigantesque projet de 14 milliards de dollars. Alors, le promoteur garde espoir. Les environnementalistes concluent-ils, eux, déjà que c'est terminé pour GNL Québec? C'est ce qu'on va voir. Mais je veux surtout vous demander, à vous qui nous écoutez, avez-vous l'impression que c'est encore toujours la vieille lutte entre l'économie et l'environnement? Parce que si vous demandez aux gens du Saguenay, puis on va leur parler tout à l'heure, eux, ils sont pour ce projet-là. Et ils sont bien découragés de voir le rapport du BAP qui semble conclure que c'est un mauvais projet. Pour les gens de la région du Saguenay, c'est un projet qui veut dire des emplois, un essor économique, alors que dans les régions, puis les autres régions regardent en disant, bon, encore une fois, on empêche l'essor économique des régions. Fait que voyez-vous, c'est l'économie versus l'environnement, puis c'est aussi les grands centres, Montréal, Québec, contre les régions du Québec. Fait que c'est complexe, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des gros doutes à avoir sur ce projet sur le Saguenay parce qu'il y a plein de composantes environnementales. On va en parler d'ailleurs tout de suite avec Patrick Bonin, il est porte-parole de Greenpeace. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Est-ce que c'est encore face aux gros projets industriels au Québec, là? Est-ce qu'on est toujours en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut prioriser, l'économie, l'environnement? Je sais que c'est un vieux débat, puis on est un peu tanné d'opposer les deux. Est-ce que c'est encore ça, là, ce à quoi on fait face, là?
Ben malheureusement oui, dans certains projets, et je pense que le Bureau d'audience publique en environnement dans son rapport hier sur GNL a été très clair. Hein, ce projet-là, ben il n'est pas conciliable avec le respect de l'environnement. Il augmenterait les émissions de gaz à effet de serre. Rappelez-vous, c'est du gaz produit par fracturation dans l'Ouest canadien. Le BAP est clair, il dit que ça nuirait à la transition énergétique, ça serait un risque majeur pour les Belugas. Il y a des enjeux aussi sur les tarifs d'électricité qui augmenteraient pour des millions de Québécois. Donc, c'est clairement plus le genre de projet qu'on peut se permettre. Et vous parliez de la Cour suprême dans sa décision aujourd'hui sur la taxe carbone. Elle a été claire, là, les changements climatiques constituent une grave menace pour l'avenir de l'humanité, c'est la Cour suprême. Donc, oui, il y a d'autres solutions qu'on doit mettre en place, mais on ne peut plus se permettre ce genre de projet, c'est certain.
Ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des projets qui, justement, se développent en même temps, qui soient bons pour l'économie puis bons pour l'environnement?
Il y en a une panoplie. Si on regarde, le Québec est probablement l'endroit le mieux placé dans le monde pour faire cette transition-là vers les énergies renouvelables. On est déjà à 99 % de notre production d'électricité qui est de l'énergie renouvelable. On est des champions au niveau de l'électrification des transports. On pourrait électrifier les bâtiments, électrifier les procédés industriels. On en voit beaucoup de ce temps-ci de la question de la souveraineté alimentaire, d'avoir des serres, par exemple, plus de transformation locale. On a une foresterie où on pourrait améliorer les techniques, évidemment, et améliorer le bilan forestier. On pourrait transformer plus de bois, on pourrait faire des grands chantiers en efficacité énergétique, en rénovation éco-énergétique, et il y a des grands projets industriels aussi qu'on peut envisager pour le Saguenay, par exemple, on parle beaucoup d'aluminium vert, donc comment on peut faire au Québec de devenir des leaders mondiaux en faisant en sorte que, et il y a des projets, là, Apple est en train d'investir en recherche pour faire de l'aluminium sans carbone, donc il y a des solutions, mais il faut maintenant que les gouvernements arrivent avec des plans de transition pour les régions, appuient le développement des régions, mais n'appuient pas le type de développement qu'on peut plus se permettre, qui est une expansion de la production de gaz, utiliser notre hydroélectricité pour liquéfier ça et envoyer ça un peu partout sur la planète et augmenter les GES. Ça, c'est clairement rétrograde.
Oui, et c'est souvent ça, j'ai l'impression. Moi, je suis depuis des années tout le dossier de la cimenterie de Port-Daniel et puis... Depuis le début, c'est marqué noir sur blanc. On vient d'allumer pour se rendre compte que finalement, c'est un projet hyper polluant. Dans quelques années, ça va être probablement être le plus polluant au Québec. Mais c'était marqué dans le ciel, ça, que ça allait être ça, il y a quelques années. Et pourtant, les gouvernements l'ont appuyé. Et aujourd'hui, cette cimenterie-là, vous parliez là, du REM, entre autres. Quand je lis, par exemple, que l'ensemble des gaz à effet de serre qu'on va avoir évité de produire grâce au REM, au Réseau Express Métropolitain de Montréal, pendant 25 ans, ben ça aura servi à rien parce que, dans le fond, juste la cimenterie, quand elle va être à capacité en 2023, elle va cracher dans l'atmosphère chaque année 2,5 fois plus de CO2 que toutes ces émissions qu'on a évitées avec le REM pendant 25 ans. Fait que tu as l'impression de faire... Un pas en avant, trois pas en arrière.
Non seulement trois pas en arrière, mais la cimenterie a quand même coûté des centaines de millions aux Québécois, Québécoises, parce qu'il y a eu énormément de financement pour ce genre de projet-là. Et quand on regarde le projet GNL Québec, c'est un peu l'équivalent. Hein? En termes de manque à gagner pour Hydro-Québec, l'Union des consommateurs calcule qu'en 2030, ce serait 1,5 milliard de dollars que générerait en manque à gagner GNL Québec pour Hydro-Québec. Je vous parlais tantôt, c'est une augmentation de tarifs de 2,5% pour des millions de Québécois. Ce serait leur facture d'électricité qui augmenterait parce que ce projet-là serait extrêmement énergivore. Là, c'est l'équivalent de presque 300 000 maisons en termes de consommation énergétique que demanderait GNL Québec, alors qu'on n'a plus de surplus énergétique prévu à partir de 2027. Donc, c'est de l'argent public, encore une fois, qu'on ne doit pas mettre là. Il y en a des solutions, il y en a des alternatives. Je vous parlais évidemment de la foresterie, mais il y a tout un modèle de coopérative agricole, par exemple, comme Nutrinor au Saguenay, qui est super intéressant. L'écotourisme se développe de manière quand même, c'est presque le créneau par excellence économique dans cette région-là. Le biométhane, qui est une manière de produire du gaz produit à partir de déchets agricoles, déchets alimentaires. Il y a eu une annonce cette semaine au Saguenay. Donc, il y a moyen d'avoir des alternatives, mais là, ça prend de la cohérence de la part des gouvernements, autant au niveau des investissements financiers qui doivent se faire à la bonne place, que des décisions comme GNL. Ben là, on le voit, le BAP est clair, ce projet-là est dévastateur, c'est pas bon pour l'environnement, pas bon pour les belugas, pas bon pour nos tarifs d'électricité. Donc, il faut que le gouvernement ferme la porte et fasse en sorte qu'on passe là, comme société, aux solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parlons-nous. Et il y en a des moyens. Et là,
mais pourquoi ça prend des années, Patrick Bonin? Parce que la cimenterie, on se peut plus en parler. Puis en même temps, c'est même plus québécois, la cimenterie. Là. La famille Baudouin-Bombardier, en plus, a vendu ça à des Brésiliens, si je me trompe pas.
Oui, exactement.
Fait que là, maintenant, essayez donc d'aller faire pression pour qu'ils écoutent. Qu'ils pensent au Québec, mettons.
Ouais, ben c'est sûr que le gouvernement a un rôle de réglementer à quelque part. Là, il faut s'assurer évidemment d'encadrer ces entreprises-là, mais a le pouvoir comme gouvernement de. Imaginez là, on est le paradis des énergies vertes au Québec. On a Hydro-Québec, on a des expertises en transport collectif. On pourrait transformer de l'aluminium. Évidemment, c'est un des créneaux les plus utilisés. Les composants d'aluminium, que ce soit dans les vélos, dans les véhicules, que ça fait des véhicules plus légers. Donc, il y a des créneaux d'avenir. Mais là, nos gouvernements doivent passer en deuxième vitesse. Il y a une urgence climatique, elle est reconnue. La Cour suprême le restatue aujourd'hui. Maintenant, les gouvernements ont un budget aujourd'hui au Québec. Est-ce qu'on va avoir des investissements massifs qui feront en sorte justement qu'on fait une relance, mais pas une relance comme revenir dans où on était il y a 10 ans, une relance qui positionne le Québec comme étant le paradis des énergies vertes et qu'on table là-dessus et qu'on aide les régions à se développer.
Est-ce que vous en savez? Est-ce qu'on va en avoir de l'argent là? Est-ce qu'on va en mettre? Est-ce que Éric Girard, le ministre des Finances, a prévu quelque chose d'après vous?
Bien, on n'est pas dans le secret des dieux, mais malheureusement, on craint qu'il n'y ait pas d'argent qui suive ce discours. Et pourquoi on dit ça? Bien, il y a eu des investissements en transport collectif. Oui, il y a eu des investissements au Québec dans l'électrification des transports, mais il en manque énormément encore. Et là, bien, c'est le moment. C'est une relance. Il faut qu'on remette le compteur à zéro et qu'on reparte sur la bonne voie. Et ça, ça se fait par des investissements du gouvernement, des investissements de la Caisse de dépôt et placement aussi. Là, on a une Caisse de dépôt et placement qui investit encore près de 8 milliards dans le pétrole et le gaz, alors qu'on pourrait créer des fonds de développement économique régionaux, tabler là-dessus, faire la même chose avec le fonds des générations qui actuellement est utilisé et évidemment pour rembourser la dette. Mais on pourrait à la place créer ou utiliser ce fonds-là pour comme levier économique pour justement pas faire en sorte qu'on lègue une dette économique.
Mais il n'y a pas un fonds vert, justement, Patrick, il n'y a pas un fonds vert. Il sert à quoi le fonds vert, là? Le fonds que même la ministre de l'Environnement de l'époque, la première de la CAQ, avait de la misère à comprendre et à expliquer. Il sert à quoi le fonds vert?
Ben, le fonds vert, une grosse partie du fonds vert va dans le transport collectif, qui est quand même très important au Québec. Une bonne partie dans l'électrification des transports, mais il y a des choix qui sont faits qui sont questionnables, comme par exemple de donner encore 8 000 $ aux gens qui veulent s'acheter un véhicule neuf électrique. C'est intéressant, mais ça sort de nos poches et ça s'en va à ceux qui ont les moyens de s'acheter ce type de véhicule-là, alors qu'on pourrait mettre un bonus-malus, par exemple, ceux qui choisissent un véhicule ultra-énergivore, ben ils payent un surcoût et ça l'aide à payer un rabais pour les véhicules énergétiques, éco-énergétiques. Une autre partie du fonds vert qu'on critique, c'est qu'actuellement, les entreprises ne paient pas vraiment pour leur pollution. Ils ont des droits de polluer gratuits et ça coûte des centaines de millions de dollars aux Québécois. Et le gouvernement, au lieu de les faire payer le juste prix, donc le prix que ça nous coûte, cette pollution-là, les impacts des changements climatiques, les impacts sur la santé, au lieu de faire payer aux entreprises, on a encore des programmes de subventions massifs à partir du fonds vert pour ces entreprises-là qui ne paient même pas actuellement le juste prix de leur pollution. Donc, c'est sûr qu'il y a des ajustements qui doivent être faits. Le gouvernement l'a reconnu, a dit que le fonds vert, il va falloir le changer. Mais là, maintenant, ça prend des gestes concrets, pas juste des paroles. Si la lutte climatique est une priorité pour ce gouvernement-là, il faut également que les budgets suivent. Il faut également que les projets, les réglementations. Et pour l'instant, ben, on va manquer notre cible de 2030 au Québec. On s'en va pour atteindre seulement 42 % de cette cible-là de réduction de gaz à effet de serre pour 2030. C'est loin, là. C'est même pas la moitié des objectifs qui sont atteints actuellement avec le plan du gouvernement. Fait que là, le budget, c'est un moment justement pour arriver avec une vision d'avenir, appuyer le développement intelligent du Québec dans les transports, l'alimentation, l'agriculture, le bâtiment. On le sait, c'est l'ensemble de la société qu'il faut changer. Mais on a besoin des gouvernements qui nous aident. Et le premier geste à faire, c'est de dire, OK, on tourne la page, j'ai notre Québec, c'est terminé, on enterre ce projet-là et on se concentre sur les vraies solutions. Parce que ça, c'en est pas une. Le BAP l'a confirmé hier.
L'accessibilité sociale, j'étais contente que le BAP en parle parce que comme citoyen, des fois, on a l'impression qu'on a beau être contre, là, puis on dirait que ça ne sert à rien de faire valoir notre point. Là, ici, il va falloir que GNL prouve que ça peut être acceptable socialement, d'après vous, Patrick Bonin, est-ce qu'ils peuvent arrêter? C'est un des trois points sur lesquels ils doivent montrer patte blanche par rapport aux demandes du BAP et au gouvernement. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible que ce projet-là, à part dans la région même, soit acceptable aux yeux des Québécois?
Selon moi, c'est complètement impossible, là. Vous l'avez vu, les Québécois se sont mobilisés contre les gaz de schiste comme jamais. On était 500 000 personnes dans les rues de Montréal en 2019 à manifester pour le climat. Et ce projet-là irait complètement à l'encontre de tout ça. Les sondages disent qu'il y a deux fois plus de Québécois environ qui sont opposés au projet GNL qu'il y a de gens qui l'appuient. Et même localement, c'est extrêmement divisé, là. C'est pas un projet qui fait l'unanimité. Il y a beaucoup de gens qui sont contre ce projet-là. Oui, il y a des gens qui sont pour, évidemment, le développement économique. Mais il y a beaucoup plus de gens qui seraient pour un développement économique intelligent pour un projet qui ne diviserait pas la communauté parce qu'actuellement, clairement, il y a des enjeux sociaux. Là, la communauté est tiraillée. Il y a des gens pour, des gens contre. Et les sondages disaient que même localement, si le rapport du BAP est négatif, ce qu'il est actuellement, clairement, là, il est dévastateur pour le projet, mais les gens seraient encore plus contre. Donc, clairement, ce projet-là n'aura jamais l'acceptabilité sociale. Cette condition-là ne sera pas remplie. Le respect de l'environnement, qui est l'autre condition du gouvernement, mais le rapport du BAP a descendu en flamme, ce projet-là. L'augmentation des GES risque pour les bélugas, encore une fois. Donc, il n'y a pas d'autre solution que tourner la page, se concentrer sur les solutions. Et oui, travaillons ensemble, aidons les régions, mettons en place des fonds de développement des régions, des fonds de transition pour appuyer les communautés, pas pour appuyer ce type de projet.
Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace, c'est très clair votre position. Merci beaucoup. On va justement aller parler après la pause à Carl Laberge, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie du Saguenay-Lefjord. Il est PDG justement du port de Saguenay. Il va nous donner l'opinion des gens de la région. Dernière nouvelle, moi j'avais plutôt compris qu'ils étaient favorables à ce projet parce que, puis on les comprend, pour eux c'est l'économie de la place. Il va nous dire ça, M. Laberge, tout de suite après ceci. Alors, est-ce que vous pensez que c'est encore la chicane entre l'économie, l'environnement? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on comprend pas le projet et qu'on n'est pas assez en faveur? Remarquez, le BAP par rapport à GNL Québec conclut que ce projet-là doit retourner sur la table à dessin parce qu'il y a trois éléments qui doivent être améliorés. Entre autres, l'accessibilité sociale. Ce projet-là, tel qu'il est actuellement, ne peut pas passer. Patrick Bonin de Greenpeace nous disait que d'après lui, c'était pas mal mort parce que ça sera jamais acceptable pour les citoyens. Vous en êtes des citoyens. Êtes-vous d'accord avec un GNL Québec, vous? 514-790-9850. 1-866-790-9850. On va aller justement dans le coin. On va parler à Carl Laberge, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lefjord. Il est président PDG du port de Saguenay. Bonjour, M. Laberge.
Bonjour, Mme Marchal.
C'est encore du monde de Montréal qui comprend pas ça?
Ah, oh, le monde de Montréal comprend. On les aime, les gens de Montréal.
Ah, oh, vous êtes fins, vous êtes fins, merci.
On aime ça leur parler quand on a l'occasion là, pour se comprendre.
Est-ce que c'est vrai que c'est polarisant chez vous aussi, le dossier GNL?
Ben, je vous dirais que chez nous, deux choses. Premièrement, le dossier, moi, je peux vous dire, je suis président de la Chambre de commerce, on est dans le milieu. Là. On est une région industrielle à la base. Vous connaissez la région,
oui.
Là, au niveau des alumineries, de la forestierie. On connaît ça, l'industrie. On n'a pas, nous fait pas peur. Là. Donc, je peux vous dire qu'il y a une très forte acceptabilité sociale dans la région pour ce projet-là. Moi, je l'entends tout le temps. Les autorités politiques, pour la plupart, là, sont en accord avec le projet, le milieu d'affaires. Donc, il y a une très forte acceptabilité sociale dans le milieu. Cependant, c'est certain qu'il y a des voix discordantes. Il y en a dans la région. Je peux vous dire, moi, que c'est une minorité dans la région, mais il y en a. Mais on voit aussi des groupes nationaux qui ont pris ce dossier-là à bras-le-corps et puis qui sont très vocaux puis qui ont de la tribune. Puis on les entend.
Ouais. En même temps, vous avez l'exemple d'une entreprise qui a plutôt été bonne pour le Québécois, Rio Tinto Alcan à Alma. Bon, l'aluminerie, est-ce que c'est pareil avec GNL Québec? Si on permettait ça, est-ce que ça serait la même chose? Quand on voit que ça peut être un aussi grand pollueur, j'ai l'impression que c'est difficile, M. Laberge, d'être en faveur de ça. À un moment donné, si on est pour l'environnement, puis qu'on dit qu'au Québec, c'est important. Là, la taxe de carbone vient d'être maintenue, puis le juge en chef de la Cour suprême le dit, ça prend ça pour être capable de faire avancer le dossier des changements climatiques. C'est un outil majeur. Mais le dossier de GNL va à l'encontre de ça.
Vous avez un excellent exemple entre les mains, Mme Maréchal. Vous parlez de Rio Tinto.
Ben oui.
Dans la région. Vous savez, vous l'avez vu là, dans le palmarès des émetteurs au niveau des gaz à effet de serre, c'est des grands émetteurs, là,
ouais.
On l'a vu dernièrement. Là. Mais en même temps, l'aluminium, c'est un produit qui est très important dans plusieurs domaines. On parle d'automobile, puis si on veut alléger les véhicules au niveau des changements climatiques, puis on s'entend que l'aluminium, c'est un produit là, qui est nécessaire dans nos sociétés aujourd'hui. Donc, il faut qu'il soit produit. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'il soit produit de la meilleure manière. C'est ce qu'on est capable de faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les alumineries de la région sont les plus performantes au monde. Donc, même s'ils émettent des gaz à effet de serre, ils améliorent le bilan carbone au niveau global. Le Québec n'est pas isolé du reste de la planète. Donc, ce qui est proposé de faire dans le cas de GNL Québec, c'est exactement la même recette qu'on veut appliquer. Là. C'est de prendre... vous savez, c'est pas le Québec qui décide si les pays étrangers vont consommer du gaz naturel ou pas. C'est un marché qui est global. Il y a plusieurs producteurs. On est dans une compétition comme dans toutes les productions industrielles. Donc, le choix qu'on a de faire, c'est est-ce qu'on est capable, nous, de produire ce produit-là, du gaz naturel liquéfié, puis on est capable de le faire mieux que les autres sur la planète? La réponse, c'est oui.
Mais là, il faudrait le faire maintenant, parce que de ce que je comprends, finalement, c'est que quand ça va être au plus beau de la production, GNL Québec, ça arriverait trop tard.
Ben, je vais vous dire, s'il y en a qui sont assez bons pour prédire l'avenir avec exactitude, là, c'est tout que des champions, là, parce que est-ce que vous en, on n'en connaît pas beaucoup là, qui ont raison quand ils se mettent à prédire. C'est une science qui est très approximative. Hein?
Ouais.
Moi, là, le vrai test là, dans tout ça, là, puis c'est toujours vrai au niveau des investisseurs. Là. Vous savez, il n'y a rien de plus peureux qu'un investisseur, puis de l'argent, puis surtout 9 milliards de dollars, c'est très peureux, ça, 9 milliards de dollars. Donc, moi, je me dis à la fin, si ils sont capables d'aller chercher le financement pour un projet comme ça, c'est eux qui vont prendre ces risques-là, puis on verra si le futur va leur donner raison. J'imagine que ça va reposer sur des contrats qui vont être importants,
ouais.
qui vont qui vont faire qu'il y a un besoin. Donc, si il y a des opposants, là, que le principal argument, c'est qu'il n'y a pas de financement pour ce projet-là puis qu'il n'y a pas de marché, je vous dirais, en fait, ils n'ont pas vraiment besoin de s'en occuper. Ça veut dire que le projet va mourir de sa belle mort puis qu'ils pourraient dépenser leur énergie ailleurs, en fait, là. En toute logique, là. Si c'est vraiment ça l'argument, là. Que tu sais, c'est une logique économique à la fin, là, puis tu sais, on t'entraîne de glisser sur un autre débat là, qui est un peu dangereux. Puis vous direz, la question de l'offre et de la demande puis des marchés, là, quand vous mettez ça de manière un peu plus large, ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle autre production industrielle, là, qu'on parle d'une aluminerie, d'un projet de mine, on pourrait mettre en jeu, dire ben, le marché du fer sera
peut-être pas bon
dans 10 ans.
On parler du ciment puis de Port-Daniel, puis ben, rappeler oui. qu'on n'avait pas besoin parce qu'on avait bien assez du ciment au Québec, c'est sûr. Ben, on a Michel avec nous, vous me permettrez d'aller voir un peu ce que les auditeurs en pensent au 514-790-9850, 1-866-790-9850. J'en profite pour dire, s'il y a des gens de la région, là, des voisins de M. Laberge qui nous écoutent, gênez-vous pas pour nous appeler. Il y a Michel qui est là. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Vous en pensez quoi, émission? Vous? Merci, vous en pensez quoi de ce projet-là?
Moi, j'en pense qu'il faut laisser une chance aux partis, en 2021, il faut laisser une chance aux partis de pouvoir émettre leurs commentaires, émettre leurs solutions. Il ne faut pas tomber dans le populisme, puis faire en sorte de tout condamner les projets qui sont porteurs d'emploi au Québec, parce que il n'y a rien de plus sécuritaire qu'un pipeline versus les trains ou les camions. On sait très bien que c'est très dangereux de transporter du pétrole, autre que le pipeline est l'élément le plus sécuritaire dans le transport du pétrole et le plus propre. Donc, il ne faut pas tomber là-dedans puis dire, ben, écoutez, il faut penser aux emplois que ça crée, aux retombées économiques que ça peut poser pour le Québec, parce que si on commence à tout condamner les projets de nature qui ont des impacts environnementaux, ben, c'est pas le Québec qui va se développer comme ça. On développe pas le Québec hein, juste avec l'électricité, l'aluminium, puis les choses vertes. Là.
Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel. Sylvain, votre opinion sur GNL Québec?
Ben écoutez, moi je suis pauvre, je travaille pour une multinationale, je travaille pour Rio Tinto.
Oui.
Écoutez, c'est pratiquement tous les trois mois, là, on a des activistes écologiques qui viennent manifester devant chez nous, puis on se fait chanter des bêtises, puis à un moment donné, on gagne notre vie, c'est des bons salaires, c'est des salaires en haut de 30$, il y a 1300 employés qui travaillent là, ça nourrit complètement Sorel Tracy. Je comprends pas pourquoi, à un moment donné, faut mettre l'équilibre un peu là-dedans. Oui, je comprends que les GES, faut que ça soit respecté, puis les compagnies doivent mettre un effort de plus. Mais à un moment donné, le ralentissement économique en fonction de l'écologie, mais moi, je suis complètement contre. Là. C'est des bons salaires, c'est des gens qui vont gagner leur vie. Si on aurait au moins les technologies pour l'énergie verte, je serais d'accord, mais c'est parce que là, ça bloque, puis ça va pas assez vite. Dans mon sens, à moi.
Je comprends. Merci beaucoup, Sylvain. Denise est avec nous. Bonjour, Denise.
Oui, bonjour. Moi, je m'excuse, mais je suis complètement contre. Puis là, je vous écoute depuis tantôt. Là, tous les intervenants là, qui viennent pour, là, ça finit toujours par économie. On dirait qu'ils se fichent de la vie. Puis moi, je suis certaine que c'est encore juste un autre pipeline. Puis je regardais le tracé hier, là. Il va traverser beaucoup de cours d'eau, hein. Il va traverser beaucoup de cours d'eau et ce n'est qu'une question de temps pour avoir un bris majeur qui va causer encore plus de pollution dans des cours d'eau qu'on essaie de sauver, qu'on a peine à contrôler le niveau de pollution présentement. Imaginez-vous ça quand ça va péter, ça, youpi, youpi. On va être plus creux dans la merde encore, puis le peuple va se lever là, c'est ça.
Vous faites référence, Denise, entre autres, et puis le rapport du BAP en parle, 400 passages annuels de méthaniers dans le fjord du Saguenay, et c'est là où on dit que c'est un risque non négligeable pour les bélugas, qui est une espèce déjà qui est en voie de disparition, c'est un peu dommage pour nos bélugas. On a Stéphane, rapidement, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Votre opinion là-dessus, GNL Québec?
Ben moi, je suis pour. Je suis de Montréal, puis je suis pour. Parce que, à un moment donné, avec la situation qu'on vit présentement, le peuple québécois va s'endetter de plus en plus. Ça prend des projets qui vont partir de l'économie, des projets majeurs comme GNL Québec. Mm-hmm. Oui, la madame a dit, on parle juste d'économie. Mais le gaz naturel, là, quand ça s'est cassé, s'il y aurait un bris sur une conduite de pipeline, ça s'évapore, ça s'en va dans l'atmosphère.
Je comprends. Merci.
Ça s'en va pas dans l'Atlantique.
Merci beaucoup. Claude, très rapidement, avant qu'on termine là-dessus, bonjour.
Bonjour. Moi, tout simplement que je considère que le projet pour les sommes qui peuvent être dirigées dans ce projet-là pour être dirigé vers des énergies renouvelables pour créer en fait de nombreuses opportunités à travers tout le Québec, générant finalement des emplois, des sommes en tant que payeur de taxes qui pourraient être bien, en fait, là, investir.
Des emplois verts, pas... en fait, vous dites, hein?
Oui.
Donc, vous êtes contre GNL, vous? Vous êtes contre?
En plein ça, compte tenu que l'argent qu'on va prendre dans mes poches et de tous les contribuables pour financer, compléter le financement de cet investissement-là privé. Mm. Et c'est là que j'ai de la difficulté, où on investit de nombreuses sommes dans des projets où, finalement, le payeur de taxes n'est pas interpellé. Et bien entendu, c'est dans le cas un peu là de McNiss dans Gaspésie, où ça a créé strictement 200 emplois après des milliards de sommes qui ont été investies.
Ouais, vous avez raison, Claude, de dire ça fait cher l'emploi, effectivement. Merci beaucoup, merci bien. Carl Laberge, ben on termine, Monsieur Laberge, je vous disais polarisant, hein, vous avez vu. Ça l'est effectivement, si on se fie un peu aux différentes opinions de nos auditeurs. Donc, vous allez suivre ça, vous, j'imagine, Monsieur Laberge.
Ben effectivement, puis j'écoute ce que vos auditeurs disent là, puis c'est vrai que c'est polarisant, puis ce qu'on voit aussi dans un débat comme ça là, entre autres, c'est qu'il y a beaucoup d'informations puis de désinformations là-dedans, donc les gens ont besoin de beaucoup s'informer là. J'entendais la dame tout à l'heure qui était inquiète pour la pollution de cours d'eau, une autre personne qui en a parlé là, tu sais, le gaz naturel peut pas polluer un cours d'eau là, c'est un gaz, là, c'est vapeur là, entre autres là. Puis tu sais, le problème,
mais c'est le passage des méthaniers par exemple.
Oui, mais c'est intéressant ce qui est soulevé au niveau du BAP, en fait, là, parce que ce qu'on met, entre autres, de l'avant, l'un des constats du BAP, c'est que le sort des belugas ne repose pas sur le projet GNL Québec, ni sur le passage des navires dans le Saguenay. Là. C'est un enjeu qui est beaucoup plus global, qui touche l'ensemble des facteurs qui touche la survie du béluga, comme la qualité de l'eau, par exemple, puis la disponibilité des proies, puis qui touche l'ensemble de la voie maritime du Saint-Laurent. Hein. 95% de l'habitat essentiel du béluga, puis 95% des bélugas aussi se situent dans le Saint-Laurent, pas dans le Saguenay. Hein. Donc, c'est des questions qui sont valables, qui sont soulevées dans le cadre du BAP, puis qu'on prend très au sérieux.
Oui, mais on sent que c'est la même eau, là, M. Laberge, dans le fond.
Ben
oui,
tout est
lié.
C'est exactement ce qu'on dit. Ouais. Tout est lié, mais tout n'est pas lié au Saguenay. Là. C'est ce que je veux dire. Ouais. C'est un débat qu'il faut avoir plus large.
En tout cas, j'ai des chiffres pour vous, parce que selon un sondage léger, récent, la majorité des Québécois refusent le projet. 52% disent même être contre, comparativement à seulement 27% en faveur. Puis même dans votre coin, apparemment, que si le rapport du BAB était défavorable, il y aurait beaucoup plus de gens, d'ailleurs, qui le seraient également, là, plus de la moitié des gens localement.
Ce sondage-là était très intéressant, parce que la première question, c'était: est-ce que vous êtes au courant du dossier? Puisque 70% des gens qui l'étaient pas. Donc, c'est assez difficile de se faire une opinion d'un dossier qu'on connaît pas. Hein.
c'est très vrai ce que vous dites. C'est pour ça qu'on espère avoir éclairé un peu les gens. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Carl Laberge.
Ben, merci beaucoup de nous avoir invités.
Merci. Président de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lefior. Il est également président directeur général du port de Saguenay. C'est le fun, je trouve, de parler à des gens un petit peu partout au Québec. Puis d'avoir un autre pouls aussi. On va s'arrêter ici. Tout de suite après la pause, je reçois Jean-Marc Généreux, chorégraphe. Vous le connaissez, c'est un grand danseur. Il est de Révolution, cette émission qu'on regarde tous puis qu'on a hâte que ça revienne. Il va nous dire comment il a dansé sa vie. Jean-Marc Généreux, tout de suite après la pause.